Radio Kapi.
Oh, Kapi, le journal Pierrot et la Mèche.
Et voici le titre de ce journal. La plateforme politique Lamouka dénonce ces quelques filles de répression de sa marche pacifique organisée ce mercredi à Kinshasa et dans quelques autres villes du pays. Pour le secrétaire général du parti politique Nouvel Élan, plusieurs militants ont été interpellés et les sièges de Nouvel Élan en Mbandaka saccagés. Pour sa part, le porte-parole de la police affirme l'arrestation du policier qui a brutalisé un journaliste lors de cette marche. Matériel de la RTNC perdu, plusieurs services étatiques, notamment le centre de capture des passeports biométriques pour le sud et le nord qui vous partit en fumée. C'est le bilan d'un important incendie qui a consumé l'hôtel de la poste de Bukavu dans la nuit du mardi à ce mercredi. Le colonel Jean-Daniel Batambombi Apanza, commandant adjoint du service des communications des FARDC, secrétaire de la commission FARDC de lutte contre les violences sexuelles, sera avec nous avant la fin de ce journal. Il revient sur les plans d'action de lutte contre les violences sexuelles au sein de l'armée en Ituri. Il est l'invité de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, embarqués de force par la police, et militants dispersés à coups de gaz lacrymogène avant même le début de la marche. Cela s'est passé ce matin à la place Pascal dans la commune de Massina dans l'est de la capitale Kinshasa. On apprend également qu'à La Tchangou, des militants qui ont bravé l'interdiction de la police ont été brutalisés et dispersés. Selon les bilans partiels tressés par les organisateurs de cette manifestation, plusieurs militants ont été interpellés, dont Prince Epengué, cadre de Lamouka, et le siège de Nouvel Élan à Mbandaka a été saccagé. On écoute Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, parti chez Adolphe Mouzito, qui est au micro de Paul Matendo.
Au moment où nous vous parlons avec vous, nous pouvons établir un bilan partiel selon que M. Epengué est arrêté. Il y a Adrien Malenga et Michel Mangala ici sur place à Kinshasa. Mais au niveau des provinces, je peux vous citer les cas connus. À Bumba, par exemple, les militants, quatre militants de cadre d'ailleurs, de Nouvel Élan, ont été arrêtés. À Mbandaka, les militants arrêtés, le siège d'ailleurs de Nouvel Élan saccagé. On a cassé la porte. Donc jusque-là, c'est les bilans partiels que nous pouvons faire. Nous exigeons la libération pure et simple de nos cadres et militants. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, dans un pays où nous prônons la démocratie, où nous prônons la liberté, nous prônons les valeurs républicaines, que les gens se comportent comme si nous étions dans une jungle. Nous exigeons. Ne demandons pas, mais nous exigeons la libération pure et simple de nos cadres.
Et par ailleurs, une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre notre confrère Patient Legaudi d'actualité.cd et correspondant des RFI à Kinshasa, molesté et embarqué dans une voiture de la police. Selon le témoignage de l'un de ses collègues qui l'accompagnait, Patient Legaudi tentait d'arracher une interview avec Martin Fayoulou. Le regroupement politique Nogec exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous ces militants arrêtés ce matin lors de la marche dans la partie est de la ville de Kinshasa. Constant Mutamba, qui l'est dit, ajoute qu'il a échappé à une arrestation en escaladant un mur. Toujours selon lui, la répression était forte pour une marche qui se voulait pacifique. La police, ajoute-t-il, a fait usage de l'eau chaude ainsi que des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Constant Mutamba, coordonnateur de Nogec, est l'un des organisateurs de cette marche et joint par Blaise Shindani Kambala.
Bon, il faut dire que depuis 5 heures du matin, il y a eu un dispositif sécuritaire assez renforcé. Mais malgré cela, les militants de Nogec ainsi que ceux de Lamouka ont bravé la peur et ont pris d'assaut les rues de la capitale, notamment de la partie est de la ville. Malheureusement, il y a eu une répression forte qui a occasionné plusieurs arrestations ainsi que des blessés. Et Nogec compte une vingtaine de ces militants qui sont arrêtés en ce moment et pour qui nous exigeons une libération immédiate et inconditionnelle. Nous-mêmes, nous venons d'échapper de peu à l'arrestation. Nous avons dû escalader le mur parce que la violence a été forte. Et donc nous regrettons qu'une marche aussi pacifique soit réprimée de cette façon par un pouvoir qui se veut pourtant proclamer comme credo l'état de droit.
Je vous propose à présent de suivre les bilans que donne la police nationale congolaise de cette manifestation. Le porte-parole de la police, le colonel Pierrot Mwanamputu, a été joint par Blaise Shindani Kambala.
Nos éléments ont été dans l'obligeance d'escorter les leaders de la MOCA jusque sous l'avenue Lukusa aux encablures du cercle Laïs et du restaurant Zamani, où malheureusement il y a eu des incidents qui ont éclaté, où nous déplorons quelques policiers blessés. En dehors de cela, nous déplorons aussi l'incident malheureux qui est survenu contre notre confrère Patient Ligodin, le directeur d'actualité CD. À ce sujet, monsieur le conseiller général, le conseiller divisionnaire principal Moulay Baïgoua a donné des instructions fermes à monsieur le conseiller provincial de la province de Kinshasa. Je venais d'être en contact avec lui. Le journal Kasongo m'a confirmé avoir mis la main sur le policier qui présumait être auteur des faits incriminés. Dans l'ensemble de la République, les tentatives de marche ont été étouffées dans l'œuvre, sauf seulement au niveau de Kikwit où les manifestants sont allés jusqu'à la mairie déposer leurs mémos. À l'Équateur, le conseil provincial m'a fait savoir que quatre leaders de la MOCA ont été récupérés pour les soumettre à l'audition devant les officiers de la police judiciaire, le commissaire général. Je crois qu'après interpellation, ils pourront être élargis.
Et en Mbujimayi au Kasai Oriental, interpellation ce mercredi du coordonnateur provincial de Nouvel Élan ainsi que deux membres de ce parti politique. D'après la police, ces acteurs politiques tentaient de se rassembler sur l'avenue cathédrale pour la marche reportée au 17 septembre par les autorités. Certains membres de la MOCA qui se rendaient à la marche affirment avoir essuyé des jets de pierre des personnes non autrement identifiées avant d'arriver au point de départ. Une forte pluie qui s'est abattue pendant plus de 3 heures sur la ville à la mi-journée a permis d'atténuer le risque. Et en bref, la MONUSCO condamne l'interpellation brutale des patients Ligodi. Aujourd'hui, les journalistes doivent pouvoir travailler librement, réagit la mission onusienne au Congo dans un tweet. Dans un communiqué, l'ONG Journaliste en danger condamne fermement l'agression du journaliste et patient Ligodi par les forces de l'ordre et demande instamment aux autorités gouvernementales et de la police de sanctionner les auteurs de cet acte infligé publiquement aux vies et aux su de tout le monde à notre confrère. Pour Journaliste en danger, rien ne justifie l'usage de la violence à l'encontre de ce correspondant des RFI qui n'a pourtant commis aucune infraction en couvrant cette manifestation et les agissements des forces de sécurité n'avaient rien à voir avec le travail du journaliste. Rendons-nous à Ituri où des cas d'atteinte à la liberté de la presse se multiplient ces derniers temps. Il s'agit entre autres des cas d'étuierie, d'intimidation et autres menaces de mort qui sont attribuées aux hommes armés et en uniforme. C'est le constat fait par les associations de défense des droits des journalistes, notamment Journalistes en danger, GED et l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section de l'Ituri. Ces structures demandent au gouvernement de protéger les journalistes contre ces graves violations qui visent le musellement de la presse en Ituri. Isaac Remoyope.
Selon l'INPC Ituri, au moins 2 journalistes sont victimes d'intimidation et des menaces de mort chaque jour en province de l'Ituri dans l'exercice de leur métier. Le dernier cas, c'est celui d'un journaliste à Mungwalu qui est recherché par certains membres du groupe armé de la Codeco pour ses reportages sur les exactions de cette milice. Un acte dénoncé également par l'ONG Journaliste en danger, GED, dans un communiqué de presse publié samedi dernier à Kinshasa. La présidente de l'INPC Ituri rapporte que certains professionnels des médias vivent dans la clandestinité. GED et l'INPC Ituri pointent du doigt les groupes armés, mais aussi certains militaires des FARDC. Ces structures demandent au gouvernement de protéger les professionnels des médias pour leur permettre de mieux assumer leur rôle de quatrième pouvoir. Christine Abedito.
Les cas de menaces, de morts, les journalistes reçoivent chaque jour. Aujourd'hui, nous pouvons même arriver à compter des centaines de cas. C'est très grave.
Les porte-parole de l'armée en Ituri nient l'implication de l'armée dans les cas des restrictions de la liberté de la presse. Toutefois, le lieutenant Gilles Ngongo reconnaît certains cas rares d'interpellation des journalistes qui ne respectent pas les principes du journalisme pour les rappeler à l'ordre. Il accuse surtout les groupes armés en affirmant la détermination du gouvernement à protéger les journalistes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et parlons politique dans ce journal. Ouverture ce mercredi à l'Assemblée nationale et au Sénat de la session ordinaire de septembre. Dans son discours, le président a dressé un bref aperçu sur l'état de la nation caractérisé par la situation sécuritaire préoccupante dans le Nord Kivu et l'Ituri, aujourd'hui sous état de siège. Modeste Bahati Lukwebo est aussi revenu sur les conditions socio-économiques de la population qui demeure préoccupante et a invité à la valorisation de la production locale ainsi que de la baisse de prix sur le marché. Il affirme soutenir les combats de l'IGF contre la corruption et plaide pour le vote d'un budget avec une bonne affectation des ressources de l'État. Michel Kifindangoy.
Outre la sécurité, le président du Sénat s'est dit préoccupé par la situation socio-économique du pays et plaide pour la diversification de l'économie. Modeste Bahati Lukwebo.
Que cette baisse des prix se fasse en tenant compte des intérêts aussi bien des consommateurs que des opérateurs économiques. Il s'agit de stimuler la production locale au lieu de recourir systématiquement à l'importation au mépris des efforts locaux.
Face aux conditions salariales précaires des enseignants et fonctionnaires, le président du Sénat prône pour une justice distributive.
Le gouvernement devrait mettre en place une politique salariale nationale qui tiendrait compte des réalités contextuelles de notre société tout en veillant à une juste redistribution de la richesse que génère notre économie.
Modeste Bahati invite par ailleurs la justice à soutenir le travail de l'IGF contre les auteurs de crimes économiques.
Le travail qu'entreprend l'IGF nous convainc qu'avec la prise de conscience, il y a de l'espoir que les recettes publiques de l'État connaissent davantage un accroissement.
Modeste Bahati invite aussi les sénateurs à voter un budget rationnel capable de contribuer à la croissance de l'économie nationale.
À l'Assemblée nationale, le président de la Chambre salue le dépôt de ce mercredi par le gouvernement du projet des lois des finances pour l'exercice 2022. C'est pour la première fois que le gouvernement soit conformé au délai constitutionnel fixé par l'article 126 de la Constitution, souligne Christophe Mbosonkodia. Pour permettre au gouvernement de maximiser les recettes de l'État, le président de l'Assemblée nationale annonce la mise sur pied d'une commission parlementaire qui auditera le cadastre minier pour canaliser dans les trésors publics toutes les recettes de l'État. Notons que ce projet de loi budgétaire 2022 se chiffre à près de 20 000 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 13% par rapport au budget 2021. Arrêté à la fin du mois d'août dernier, l'ancien ministre de la Santé dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba, Eteni Longondo, a bénéficié mardi dernier d'une liberté provisoire. Du coup, plusieurs personnes cherchent à savoir pourquoi les autres détenus ne bénéficient pas non plus de cette liberté. Pour Maître Bertrand Kabembela, avocat au parcours de Lubumbashi et coordonnateur provincial des Kokoluko dans le Grand Katanga, solliciter la liberté provisoire est un droit reconnu à tout détenu. Maître Bertrand Kabembela est au micro de Jean Ngandou.
La liberté étant la règle, la détention une exception selon l'article 17 de la Constitution congolaise, il va de soi que toute personne en détention peut solliciter une liberté provisoire, en ce compris le docteur Eteni, qui du fait est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité sera établie par un jugement définitif. En général, la liberté provisoire est accordée pour ces raisons, le fait d'avoir un emploi stable, une adresse connue, des problèmes sérieux de santé et le manque d'antécédents judiciaires, etc. Posons-nous maintenant la question de savoir pourquoi seulement le docteur Eteni et pas les autres. J'espère bien que ce n'est pas pour des raisons politiques, étant donné que le concerné est membre de l'UDPS. Et s'il en est ainsi, ça serait un grand coup asséné à l'état de droit prôné par le président Félix Tshisekedi. Je rappelle cependant que jusqu'à preuve du contraire, le docteur Eteni bénéficie de la présomption d'innocence, jusqu'à ce qu'un tribunal compétent pourra le condamner.
Nous poursuivons ce journal au sud Kivu. Il est 19h13 précisément à Bukavu. Un important incendie a consumé l'hôtel de la poste de Bukavu dans la nuit du mardi à ce mercredi. En plus de services postaux, ces bâtiments situés dans la commune d'Ibanda abritent la RTNC locale qui a perdu tout son matériel pour pouvoir émettre plusieurs services étatiques, notamment le centre de capture des passeports biométriques pour le sud et le nord Kivu. Radio Kapi s'est rendu sur les lieux de l'incendie mercredi matin. Le constat de Cynthia Bachizi.
C'est un scénario de désolation que nous trouvons sur place. Nous marchons sur un sol cimenté, encore chaud et recouvert de cendres. Des gros câbles électriques torsadés traversant la cour intérieure de ce bâtiment rasent presque le sol, alors qu'une épaisse couche de fumée se dégage encore à quelques endroits. De ce complexe qui date de l'époque coloniale, seuls les murs extérieurs, peints en jaune mais désormais sombres, sont encore visibles. Outre les services postaux, ce bâtiment était devenu comme une galerie avec plusieurs locataires commerciaux. Beaucoup de ceux qui ont tout perdu perdus se sentent aujourd'hui impuissants face à l'ampleur des dégâts. Témoignage.
Je suis informaticien. Je faisais l'impression sur tout format. J'avais des machines, des ordinateurs, des imprimantes et je n'ai rien récupéré.
L'entreprise Thalassa, connue par la production de bouteilles en plastique, les documents administratifs, les machines de production d'eau également calcinées. Aujourd'hui, nous allons renvoyer plus de 20 jeunes en chômage.
L'origine de cet incendie est encore inconnue. Les enquêtes sont en cours, assure le ministre provincial des Postes et Communications trouvé sur le lieu. Précisons que la RTNC Bukavu est réduite au silence. Il faudra de gros moyens et dans l'urgence pour remettre ce média public en onde. Noté qu'en septembre 2011, un autre incendie avait déjà calciné partiellement l'hôtel de la Poste de Bukavu. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Il s'est clôturé hier mardi à Lubumbashi les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Pendant 5 jours, les participants ont planché sur ce qui bloque la bonne marche du système éducatif avant de faire des projections dans le but de redorer le blason de ces secteurs qui souffrent de plusieurs maux. Jean Gandou pour les détails.
Après 5 jours de travaux, les participants ont pris plus de 300 résolutions et recommandations. La plus grande est sans nul doute l'instauration du système licence master et doctorat, LMD en sigle. Pour le ministre des tutelles, cette option entre en vigueur dès la prochaine rentrée académique. Et cela demande de moyens. Que faire? Moïn Donzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire.
Et nous avons résolu, en tant que gouvernement, de pouvoir augmenter les budgets de manière quantitative, mais aussi de rationaliser les ressources propres des établissements. Et ça, c'est important. Et nous avons dit qu'avec ce que nous avons comme moyen actuel, nous allons amorcer le processus et nous allons continuer à nous améliorer au fur et à mesure que nous avançons avec la réforme.
Pour le professeur Kambay Boacha, un des participants, cette notion de LMD doit être bien expliquée pour éviter toute mauvaise interprétation. Et parmi les recommandations, il y a la fermeture des instituts supérieurs et universitaires jugés non viables. Hors micro, certains professeurs se sont montrés sceptiques quant à la mise en pratique de toutes les résolutions et recommandations issues de ces assises. D'après eux, ce ne sont pas les textes qui manquent, mais plutôt une réelle volonté de les traduire en actes. Qu'à cela ne tienne, ils accordent le bénéfice de doute à l'actuel gouvernement, dont ils apprécient déjà les premiers indices. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Poursuivons ce journal au Nord Kivu. La situation sécuritaire demeure instable dans le territoire de Masisi, déplore un député provincial élu dans la zone. Celui-ci parle d'un activisme accru de groupes armés qui fait de plus en plus de victimes parmi les civils. Le porte-parole de la 34e région militaire, lui, indique que les forces engagées dans le cadre de l'état de siège poursuivent des opérations dans la zone. Bernard Denyangui.
Le député Alexis Baunga dit reconnaître les efforts des autorités de l'état de siège pour restaurer la sécurité dans ce territoire. Cependant, il se dit préoccupé par l'activisme accru des groupes armés qui fait de plus en plus de victimes parmi les civils, pendant que les villages vidés de leur population se multiplient aussi dans le Masisi.
Aujourd'hui, l'insécurité est concentrée, notamment dans les groupements Oufamandou Premier, dans les Bachali Mokoto, dans les triangles Masisi Centre Nyabiondo. Et Kanja Mahanga, dans la nuit du 13 au 14, Monsieur Baloumé Bouchou a été assassiné à Massé Centre. Et la semaine antérieure, il y a eu 3 autres personnes qui ont été tuées. Et hier, dans la localité de Kalungu, on signale des affrontements. Nous sommes en train d'appeler au FRDC de tout faire pour protéger la population civile pendant ces affrontements.
Rappelons que Monsieur Baloumé Bouchou, tué la nuit de lundi à hier mardi à Massé Centre, était le chef d'antenne de DDRC. Dans ce territoire, le porte-parole de la 34e région militaire affirme, lui, que les opérations planifiées dans le cadre de l'état de siège se poursuivent dans le Masisi. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike parle de 4 villages qui ont été repris des mains des APCLS hier mardi dans la localité de Kalungu, ouest du groupement Bachali Mokoto. Goma, Bernard Dengangi, Radio Kapi.
L'invité. C'est le colonel Jean-Daniel Batambombi Apanza, commandant adjoint du service des communications des forces armées et secrétaire de la commission FRDC de la lutte contre les violences sexuelles qui revient ici sur le mécanisme des suivis mis en place pour la concrétisation du plan d'action de lutte contre les violences sexuelles au sein de l'armée en Ituri et les rôles de la justice dans cette démarche. Le colonel Jean-Daniel Batambombi Apanza répond aux questions de Martial Kizabiamungu.
Mon colonel Batabombi Apanza, bonjour.
Bonjour, monsieur le chevalier de la plume.
Quelles sont les résolutions en sortie de cette formation sur les droits de l'homme, spécialement les violences faites aux femmes au sein de FRDC?
Oui, d'abord, je voudrais vous expliquer comment nous sommes arrivés ici. C'est par rapport à la mise en œuvre de la campagne Tolérance Zéro immédiate contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres, laquelle campagne a été lancée par le commandant suprême le 19 juin 2021 ici à Bounia. Et c'est dans ce cadre que nous avions été instruits par les ministres de la Défense pour organiser les activités relatives aux séminaires et aux sensibilisations des officiers des commandements ainsi que des magistrats militaires pour qu'ils arrivent mieux à traiter les dossiers de violences sexuelles. Vous pouvez retenir que nous avions commencé cette mission à Kisangani, nous avions formé une quarantaine d'officiers et ensuite nous sommes allés à Bukavu, nous en avions formé 53. Nous sommes revenus à Goma, nous avons vu former 50. Et ici à Bounia, nous sommes en train de former 43. Donc au total, ça fait à peu près 195. Et parmi les gens qui ont signé l'acte d'engagement, on peut dénombrer les officiers généraux. Les officiers généraux qui ont la charge de commandement de ces unités ont pris les actes d'engagement. Alors, ce qu'il faudra aussi retenir, c'est que cet acte d'engagement vaut un serment. Donc ça responsabilise davantage les commandants des unités à prévenir et à sanctionner sur le plan disciplinaire les présumés auteurs de violences sexuelles et de les déférer, les cas échéants, auprès des juridictions militaires pour que ces présumés auteurs soient sanctionnés si le cas est avéré.
Comment vous allez faire pour un suivi au sein des forces armées pour que cet acte d'engagement soit vraiment respecté par les forces armées?
Bon, vous savez, monsieur le journaliste, les officiers que vous voyez là au sein de notre armée, c'est l'obéissance et la discipline. À partir du moment où le commandant suprême a pris cette option, il a lancé cette campagne de tolérance zéro, tout le monde s'aligne. Donc, quel que soit le grade revêtu par les militaires, tout le monde s'aligne. Et d'abord, en tant que des officiers disciplinés, ils savent que ça vaut un serment. Donc, ils ont pris l'engagement solennel et ils vont mettre en pratique cet engagement. Alors, de deux, nous avons quand même des mécanismes qui sont mis en œuvre pour en assurer le suivi. Nous avons, par exemple, les systèmes de reportage. On doit chaque fois lire dans les rapports périodiques ou circonstanciels de chaque commandant, voir quelles sont les activités qui sont en train d'être menées en cette matière et voir également si jamais il y a eu un cas de violence sexuelle qui est survenu au de son unité, quelle est l'action que lui, en tant que commandant, il a prise. Donc ça doit être signalé au niveau de la hiérarchie et ensuite, au mois de novembre, si tout va bien, on reviendra sur le même itinéraire pour évaluer sur le terrain le niveau de l'application de cet acte d'engagement. À ce moment-là, on va recourir à plusieurs sources à la fois. Il y a l'autorité provinciale, il y a les organisations partenaires, il y a beaucoup de services auxquels nous pouvons recourir pour tirer des conclusions, voir l'impact de cet acte d'engagement. Mais je voudrais aussi vous informer que depuis que nous avions commencé à mettre en œuvre ce plan d'action depuis 2014, il y a plus de 643 commandants des unités qui ont signé des actes d'engagement. Et je vous dis honnêtement, parmi ces commandants qui ont signé des actes d'engagement, aucun parmi eux n'a été cité dans la commission des actes de violence sexuelle, ce qui est un motif d'encouragement.
Alors, dénoncer, c'est une chose, et puis réprimer, c'est une autre chose. Vous pensez que ces officiers et sous-officiers qui ont signé ces actes d'engagement auront le courage aussi de déférer devant la justice un de leurs éléments qui pourrait tomber dans ces actes de violence sexuelle sur le terrain, surtout ceux-là qui sont dans des zones de conflit?
Il faut déjà, comme je vous ai dit, qu'on a commencé cette activité depuis 2015. Il y a des commandants qui sont en train de déférer sans problème le cas des présumés auteurs. Ils collaborent très bien. C'est aussi ça le motif même de mettre en face le commandement militaire et la justice militaire pour qu'ils sachent que leur collaboration, leur niveau de collaboration, les collaborations entre le commandement militaire et la justice militaire, c'est un atout et chacun resta dans sa spécificité.
Mon colonel Batabombi Apanza, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.